Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Traductrice de littérature américaine, de Laura Kosciuszko ou Dawn Carpenter, ou même de temps en temps d'une anglaise, comme Janet Winterson, elle a aussi permis aux textes de grandes féministes d'être lus en français, comme « Ces hommes qui m'expliquent la vie » de Rebecca Solnit. Céline Leroy nous accueille dans sa bibliothèque et conseille trois livres, « Lien de sang » d'Octavia E. Butler aux éditions Dapper, un catalogue d'exposition, « Alice Neal, peintre de la vie moderne » publié au Fonds Mercator, et Bleuet de Maggie Nelson, qu'elle a traduit et qui vient de paraître en cette rentrée aux éditions du Sous-sol. Au moment de la sortie du livre, Maggie Nelson confiait d'ailleurs sur France Culture « Je me suis rendu compte que l'écriture ne changeait rien, mais qu'elle permettait de tuer le temps. Parfois j'écris contre l'idée de l'écriture en tant que catharsis, mais une fois que le livre est paru, je vois beaucoup plus clairement ce que l'écriture du livre m'a apporté. En écrivant, j'épuise le sujet. Et par le biais de cet épuisement, naît une curiosité pour un nouveau sujet. Alors je peux passer à autre chose. » Vous écoutez le Book Club, le podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Elisabeth Philippe qui est entrée dans celle de Céline Leroy.
Donc là, on est devant ta bibliothèque. T'aimes bien décorer, mettre des petites cartes. Je vois, il y a une photo de William Burroughs. Il y en a une de... C'est Ginsberg, là ?
Ouais.
Marilyn Monroe.
Oui, alors là, la bibliothèque, c'est autant pour ranger les livres que pour divaguer un petit peu. D'ailleurs, je remarque que quand à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent à la maison, on se parle, à un moment donné, ils tournent la tête vers la bibliothèque et là, je perds totalement leur attention. Tout le reste, c'est beaucoup des souvenirs d'enfance, des souvenirs de voyage, des objets, de la famille, des grands-parents. Voilà, il y a un petit peu de tout.
Alors, est-ce que tu sépares tes livres en anglais de tes livres en français ? Comment tu t'organises entre les livres sur lesquels tu travailles, les livres que tu lis pour toi, pour le plaisir ? Est-ce qu'il y a une savante répartition ?
Une savante répartition, j'aime beaucoup, ça serait tellement bien. Non, pas tellement savant. Par contre, c'est vrai qu'il y a des casiers de la bibliothèque qui sont exclusivement anglophones hein, et que je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à les mélanger. Hein. Voilà, j'imagine peut-être de manière un petit peu inconsciente, c'est juste une façon de les retrouver plus facilement en fait. Hein. Et que là aussi, parce que les formats correspondent les uns aux autres. Hein. Et voilà, et pour ce qui est des livres sur lesquels je travaille, ils sont dans la pièce d'à côté. Je les mets en pile. Ça dépend. Quand ils sont terminés, je les range. Ils sont dans un casier fermé. Et ceux sur lesquels je suis en train de travailler ou qui sont des futurs projets, préférées sont en petite pile, pas très loin de mon ordinateur. Comme ça, je peux y jeter un coup d'œil de temps en temps et voir que tout ça s'accumule et que je ferais mieux de ne pas trop traîner.
On peut aller voir les livres sur lesquels tu travailles ?
Mais bien sûr. Alors, là-dedans, là, il y a une cinquantaine de livres cachés sur lesquels j'ai travaillé.
Donc c'est une armoire. Il y a même il y a une clé dans une serrure. C'est une armoire un peu années 50, non ?
Oui.
En bois. C'est un meuble de bateau ou de...
Non. Alors, ce sont des meubles familiaux. En fait, le grand classeur en bois, comme ça, était en fait dans la pharmacie de mon grand-père. Hein, et le classeur en bois de gauche était dans la première entreprise dans laquelle mon père a travaillé, en fait, et qu'il avait récupéré. Et puis, au détour, en vidant la pharmacie du grand-père et au détour d'un déménagement, j'ai récupéré ces petits meubles bien utiles pour ranger tous ces livres sur lesquels j'ai travaillé, que je n'ai peut-être pas, malgré tout l'amour que je leur porte, besoin de voir en permanence sous les yeux.
Alors, ensuite, on est donc à ton bureau. Il y a ton ordinateur, il y a un livre ouvert avec une main en métal, en bronze, qui tient les pages. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, ce livre, ou c'est un projet top secret ?
Non, je n'ai pas de projet top secret. Je suis toujours très heureuse de parler des projets en cours. Hein. Alors, c'est les mémoires de la fille de Richard Brautigan, Ayante Brautigan, qui s'appelle en anglais « You can catch death », donc « La mort n'est pas contagieuse ».
Est-ce que tu peux rappeler qui est Richard Brautigan en quelques mots ?
Oui, alors Richard Brautigan, c'est un auteur qui avait une écriture assez folle, des histoires extrêmement fantaisistes et qui a beaucoup charmé le public français, d'ailleurs plus que le public américain en fait. Hein. Mais voilà, donc c'est le projet en cours et donc c'est l'histoire racontée par sa fille face à un père extraordinaire au premier sens du terme, hein, qui dépasse complètement de l'ordinaire, qui est totalement hors cadre, hein, et comment une jeune femme vit avec un père comme ça qu'elle adule et un père qui finit par se tirer une balle dans la tête alors qu'elle a une vingtaine d'années, quoi. Et puis un petit peu plus loin, là, c'est la pile des projets à venir qui s'accumulent un peu. Il y en a certains qui sont terminés, mais j'ai pas trouvé de place pour les ranger dans mon casier.
Alors, parmi ces livres en cours, je vois qu'il y a un livre de Janet Winterson. Ah oui, Peter Heller, c'est aussi un auteur que tu traduis depuis son premier livre.
Ouais, voilà, Peter, c'est un auteur que je traduis depuis le premier, c'est-à-dire La Constellation du Chien, qui est un roman post-apocalyptique. Mon premier roman post-apocalyptique, mélangé à de la poésie chinoise du 9e siècle, hein, et à quelques fusillades aussi assez impressionnantes, et deux, trois contemplations de la nature, hein, que j'aime beaucoup. Et voilà, Céline, c'est son troisième roman.
Tu l'as vu comme un signe, le fait qu'il a un livre qui s'appelle Céline et tu t'appelles Céline ?
Non, il y a une explication à ce titre, n'est-ce pas ? Il se trouve que le livre est un mélange d'histoire familiale et d'enquête policière, et que la protagoniste, Céline Watkins, est en fait la maman de Peter. Et elle s'appelait Caroline, elle est née à Paris, Caroline prononcée à la française. Et il ne voulait autant, il a gardé pas mal de noms de gens de sa famille dans le livre, mais pour sa mère, il voulait un autre nom, mais il voulait un nom français qui ressemble plus ou moins, si possible, qui commence par un C, et tout à coup, il se dit, mais ma traductrice s'appelle Céline, pourquoi pas ? Allez.
Ah, c'est mignon.
Oui.
Et celui-ci, il est sorti en français, je ne me souviens plus.
Oui, il est sorti au mois de, si je ne dis pas de bêtises, au mois de février, et il s'appelle donc Céline, on a gardé le titre en toute simplicité.
Alors, bien sûr, sur ton bureau, il y a aussi des dictionnaires, dictionnaires français-anglais, mais aussi dictionnaires des synonymes. Et puis derrière, il y a encore une bibliothèque. Il y a l'air d'avoir des livres plus rares, là, peut-être, plus anciens.
Alors là, il y a surtout de la non-fiction, il y a des essais, il y a de la théorie critique, dont beaucoup que je n'ai pas lus, mais que je regarde avec amour.
Il y a même un livre, je vois, sur Richard Brautigan, donc l'auteur dont on parlait, l'auteur dont tu traduis le livre de la fille. Ça s'appelle « Portrait en pain, en sucre de pastèque et en pierre » de Richard Brautigan. C'est un très beau titre.
Ouais. Oui, c'est un petit livre dessiné que j'ai depuis une éternité, que je n'ai pas rouvert depuis, donc je ne pourrais plus t'en parler en détail. Mais,
En tout cas, on voit la gueule de Brötigan avec donc crayonné, avec ses cheveux longs, sa grosse moustache, ses lunettes, l'air un peu revenu de tout.
Oui, oui, c'est ça. Et en fait, l'histoire de Brötigan, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, c'est que ça a vraiment été l'auteur par lequel je suis entrée en littérature américaine, comme on entre un petit peu dans les ordres.
Qu'est-ce qui t'a tout de suite attirée dans cette littérature?
C'était tellement étonnant, tellement surprenant, tellement différent, tellement fou, ces auteurs qui osent tellement de choses dans le récit, la narration, dans la forme, que voilà, à partir de là, j'étais obligée de les suivre et de partir à l'aventure aussi.
Et t'as appris l'anglais, c'est comme ça que t'es rentrée dans l'apprentissage de l'anglais, en tout cas un apprentissage peut-être plus poussé.
Disons que ça a confirmé en tout cas une espèce de passion, de rapport très intense et intime à une langue, à un territoire fantasmé qui me donnait envie d'aller voir plus loin, de découvrir d'autres choses. Et comme toujours, en tout cas, je pense chez beaucoup de lecteurs, le désir de se retrouver dans quelque chose qui n'a rien à voir avec soi, en fait. Et voilà, et là, il offrait tout ça. C'est l'évasion et en même temps se sentir chez soi. Dans un truc complètement barré. Enfin, ça, c'est quand même... C'est formidable.
Alors, j'ai vu en arrivant que tu avais déjà sorti les livres que tu as choisis, peut-être parce que le premier d'entre eux, Lien de sang, commence, non pas dans une bibliothèque, mais en tout cas par un rangement de livres, et ça se passe pas très, très bien. Donc, peut-être que tu as voulu éviter le genre d'accident qui se déroule donc dans Lien de sang. Donc, c'est un livre d'Octavia Butler, qui a été donc une autrice africaine-américaine, qui a beaucoup publié dans les années 70-80 jusqu'au début des années 2000. C'est une pionnière en fait de l'afrofuturisme. C'est une des premières à écrire, première femme noire à écrire de la science-fiction. Et Lien de sang a été publié en 79 aux États-Unis et traduit seulement en 2000. Et pour raconter très très vite l'histoire, il s'agit de Dana, une jeune femme africaine-américaine qui a 26 ans, qui vient d'emménager avec son mari Kevin, qui lui est blanc. Ça se passe en Californie en 1976. Et voilà, ils viennent d'emménager, ils déballent des cartons, ils sont donc en train de ranger leurs livres. Et puis, soudain, Dana s'écroule. Elle se retrouve projetée au bord d'une rivière. Elle entend des cris d'un petit garçon qui est en train de se noyer. Elle se jette à l'eau pour le sauver. Et quand elle le ramène sur la rive, il y a déjà la mère du petit garçon qui n'a pas l'air extrêmement heureuse que ce dernier ait été sauvé par une femme noire. Et peu de temps après, il y a le père du garçonnet qui arrive et lui qui pointe un fusil sur Dana. Et hop, elle se retrouve à nouveau projetée en 1976 auprès de Kevin, son mari, mais elle est trempée, couverte de boue. Et donc, on ne comprend pas bien comment elle a pu faire ce voyage dans le temps et l'espace, parce qu'elle s'est retrouvée projetée non seulement au bord d'une rivière, mais aussi un siècle auparavant, en pleine Amérique esclavagiste. Et l'homme qui la menace avec un fusil, c'est un propriétaire de plantation, un maître d'esclaves. Et donc, tout le livre est fait d'allers-retours spatio-temporels entre l'Amérique des années 70 et l'Amérique de 1815, enfin du début du 19e siècle. Donc, c'est un livre extraordinaire, vraiment. Et en fait, par ce jeu d'aller-retour, ça permet de montrer concrètement les traces laissées par ce passé esclavagiste dans l'Amérique contemporaine.
Oui, bah tu as tout dit. Non, c'est vraiment remarquable. En plus, c'est vraiment d'une simplicité confondante en fait ce procédé, mais ça permet une telle richesse en fait dans le récit, dans la nuance et dans la complexité. Ça permet aussi d'avoir pas mal de personnages. Et donc, plus il y a de personnages, plus on peut varier les effets et expliquer une situation qui est extrêmement complexe. Et ce qui est très intéressant, mais comme tu viens de le dire, c'est qu'on a affaire à une femme qui vit dans les années 70, qui a tout ce qu'elle peut désirer avoir, bien étant noire, elle a pu faire des études, elle peut devenir écrivain, elle peut voter, les droits civiques, les mouvements des droits civiques sont encore très récents, donc elle a ça quand même à l'esprit. C'est une femme libre, mais qui aussi dans l'histoire de sa famille a pu ressentir l'oppression et peut encore le ressentir, comme tu viens de le dire, notamment face aux réactions aussi bien de ses futurs beaux-parents qui sont racistes, que de la peur de son oncle et de sa tante qui l'ont élevé, d'avoir un blanc entré dans la famille, qui est potentiellement pour eux en tout cas un danger. Et elle est renvoyée dans le passé avec cette connaissance en fait de son présent et de toute l'évolution historique qu'il y a eu entre-temps, et puis de la connaissance de la guerre de sécession, des mouvements des droits civiques encore une fois. Donc ça lui permet d'être à la fois plongé dans cette année de 1819 en pleine ère esclavagiste et en ayant un certain recul en fait sur ce qu'il se passe, et c'est ce qui lui permet un petit peu de s'en sortir parce qu'elle a toutes ces connaissances là. Et après il y a aussi le fait qu'elle arrive, ce qui provoque au départ un décalage qui la met en danger, parce qu'elle arrive en tant que femme libre, elle est en pantalon, donc on la confond avec un homme, on comprend pas très bien. Donc ça la met énormément en danger. Et en fait, ce qui est très intéressant en fait dans le personnage de Dana, qui, comme on l'a dit, est une femme éduquée, qui a fait des études, qui arrive avec une connaissance dans sa chair, dans sa famille, de ce que c'est que l'expérience noire afro-américaine. Mais à un moment donné, relativement au début, quand elle comprend en fait où elle est, à quelle période elle a été renvoyée et ce qui se passe, dès qu'elle revient en Californie, elle ressort tous ses livres autour de la période, en fait. Et elle cherche des renseignements pour essayer d'avoir des informations, pour avoir les bonnes réactions et essayer de survivre, en fait, à cette épreuve. Et ça dit aussi quelque chose sur le caractère de Dana, qui se laisse jamais abattre, qui est très forte, à la fois très fragile et très forte, parce qu'elle se retrouve dans une situation complètement incompréhensible, mais qui réfléchit toujours à essayer de trouver des solutions, qui a la vie chevillée au corps, qui essaye d'inventer plein de choses. Donc, elle prévoit d'un voyage sur l'autre, elle se prépare un sac avec un couteau, avec quelques médicaments aussi pour pouvoir se protéger, pour pouvoir éventuellement soigner les gens de retour au 19e siècle. Et voilà, c'est une femme, un personnage qui a une ressource incroyable, vraiment d'un point de vue féministe. C'est le personnage de femme qu'on a envie de lire souvent, à la fois forte, qui a aussi des moments de fragilité, mais qui est toujours pleine de ressources et qui est toujours aussi dans la solidarité.
Mais voilà. Oui, parce que c'est un roman extrêmement prenant, encore une fois, avec ce style très direct, donc c'est très rapide, ça se lit vraiment très très vite, et en même temps toutes les idées passent. Et il y a aussi cette dimension de la sexualisation des corps des femmes noires, je trouve, qui est très présente aussi dans le lien de sang, parce que toutes ces femmes sont susceptibles d'être violées, d'avoir des enfants aussi qui naissent de ces viols. Donc il y a aussi cette dimension sexuelle qui est très présente.
Mais c'est une question centrale, manifestement, de qu'est-ce que le corps noir est soit un corps sexuel qui est bon pour assouvir les pulsions en fait du propriétaire blanc, du maître blanc, hein, ou c'est le corps pour la force de travail en fait. Hein. Donc la sexualisation, oui, elle est partout, avec ce mélange très. Il y a aussi tout le passage absolument terrible où il y a cette amie entre guillemets, avec 40 000 guillemets évidemment, de Rufus, cette petite fille, hein, où ils ont grandi quasiment ensemble, hein, et qui est esclave, elle bien sûr, hein, et ils tombent amoureux. Mais ça aussi, elle explique très bien qu'est-ce que c'est que le rapport amoureux du point de vue de l'esclave et du point de vue du maître blanc, en fait. Et ils tombent amoureux, mais en fait, il la force, il la viole à répétition. Elle n'a d'autre choix que d'accepter. Elle était tombée amoureuse d'un autre esclave. Rufus, devenu maître, se débrouille pour vendre son compagnon. et ne lui laisse le choix que d'être violée en permanence. Et soit tu es violée et battue, hein, soit tu es violée et tu restes à la maison et voilà, tu seras ma femme parce que je t'aime. Hein. Et ce lien totalement pervers et comment aussi, forcément, ça n'a pu que rester sur des générations et des générations. Finalement, c'est ça aussi que dit ce livre. C'est-à-dire que entre 1819 et 1976, hein, tout est encore là. Cette femme de 1976 qui est libérée est quand même toujours rattachée, en fait, à ce qui se passait sur les corps des uns et des autres, dominants et dominés, hein, en 1819, et que rien, strictement rien, n'est résolu. Ou alors se résout de manière très peu satisfaisante par la violence, en fait.
Non, mais c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, et je pense que c'est ce qui rend ce livre si extraordinaire et important, c'est que ça rend extrêmement concret, physique, charnel même, les traces du passé esclavagiste dans le présent, et comment cette histoire a hanté et continue de hanter les États-Unis d'Amérique. Tu le vois, c'est un sujet dont, évidemment, on parle, les écrivains parlent encore, que ce soit Ta-Nehisi Coates, Toni Morrison, prix Nobel de littérature, ou Jasmine Ward. Et c'est ça qui m'a étonnée, c'est qu'une écrivaine de l'importance de Octavia E. Butler, ben voilà, ce livre, Lien de sang, qui est vraiment formidable, ben, il a fallu attendre 2000 pour qu'il soit traduit en français. Et je me dis qu'il y a vraiment des autrices, parce que c'est quand même souvent des femmes qui sont comme ça invisibilisées. Alors si en plus ce sont des autrices noires, il y a vraiment double peine d'invisibilisation. Et je trouve que Alice Neal, la peintre que tu as choisi d'évoquer dans ton deuxième choix, c'est justement, alors elle aussi, elle a souffert de cette invisibilisation et elle a choisi de peindre justement ce qu'on ne voit pas. C'est un catalogue d'expositions, de l'exposition qui a été consacrée à cette peintre américaine, donc Alice Neal, à la Fondation Van Gogh à Arles en 2016. C'est le Fonds Mercator qui publie ce très beau livre et c'est intitulé Alice Neal, peintre de la vie moderne. Donc là, il y a une référence à Baudelaire. Est-ce que tu peux déjà nous décrire peut-être la couverture du catalogue ?
Oui, alors moi je voulais effectivement choisir un catalogue d'exposition parce que j'ai un faible pour les catalogues d'exposition et en plus un catalogue d'exposition qui est en lien avec la rétrospective d'une femme artiste qui a mis très longtemps à être reconnue, qui est donc Alice Neal, une américaine née en 1900 et morte en 1984, hein, qui donc a traversé le siècle et a traversé beaucoup de périodes de la peinture et de l'histoire de l'art extrêmement importantes et qui a toujours été en décalage, en fait. Et donc, sur la couverture de ce catalogue, il y a un tableau qui représente, qui est donc un portrait, parce qu'elle faisait majoritairement des portraits, soit de temps en temps des intérieurs aussi, des intérieurs souvent vides. Et c'est un portrait d'un couple, un homme et une femme, la femme avec des traits assez masculins, un petit peu durs, hein, rousses, l'homme les cheveux mi-longs, blonds, ils ont un regard un petit peu perdu, ils sont assis sur un canapé, le fond est assez peu peint, le canapé est esquissé et ils ont chacun la main droite posée sur un genou. Hein. Et voilà, ils sont penchés très près l'un de l'autre, hein, et ils regardent le spectateur et ils regardent la personne qui les peint. On se demande ce qu'ils pensent un peu elle. On dirait qu'elle est assise sur le bord du canapé et qu'elle s'apprête à se lever. C'est très caractéristique du travail d'Alice Neal. Et si, pour parler un petit peu de son parcours, on a déjà dit qu'elle avait tous les défauts puisqu'elle peignait beaucoup de noirs et de latino-américains. C'était pas très apprécié, mais elle a été communiste aussi, donc c'était très problématique. Elle a été aussi extrêmement féministe, hein, qu'elle a peint un fameux portrait de Kate Millett, l'autrice de Sex Politics, et dont le titre français,
je crois que c'est La politique du mal en français, et c'est donc notamment montrer le machisme des artistes hommes dans leur représentation des femmes.
Voilà, donc la politique du mal, hein, et d'ailleurs ça a été un tournant, en fait, ce portrait pour Alice Neal. C'était en 1970 parce que le portrait a fait la une du magazine Time Magazine, hein. Et voilà, donc elle était très impliquée dans les mouvements féministes, hein. Et elle a beaucoup peint de femmes enceintes à une époque où le rapport à la maternité était presque un peu, si ce n'est remise en question, était une grande question quand même. Et je crois qu'elle a beaucoup peint ses belles-filles, en fait, donc les filles de ses fils. Et c'est
les femmes de ses fils.
Ouh là là, non mais alors c'est très intéressant ce lapsus, hein, parce qu'il y a une, il y a un tableau, attends, est-ce que je vais le retrouver, incroyable, où elle peint son fils et sa belle-fille. Alors, c'est peut-être pas son fils, mais en tout cas, où c'est un ami, hein, avec la femme de celui-ci, et tu vois, c'est sa femme, mais on dirait une enfant.
Ah oui, c'est très, très saisissant, parce que la petite, enfin, le personnage féminin, une espèce de petite blouse bleue avec un ruban rouge et jaune, des collants jaunes, elle est beaucoup plus petite que le personnage masculin, et même ses proportions sont bien plus réduites, et on dirait effectivement une petite fille.
Oui, c'est très frappant. Et l'homme tient le bébé dans ses bras et on tourne la page et on retrouve ce couple où elle a accouché, hein, et elle est réduite à l'état d'enfant où elle est à peine plus grande que le nouveau-né que son mari tient dans les bras. Donc c'est très fascinant la façon dont elle regarde les femmes avec beaucoup d'intérêt pour... ce qu'elle devait vivre à l'époque, en fait, avec elles vivent leur état de femme enceinte qui perpétue l'espèce, mais qui écarquille tout le temps les yeux, en fait, et qui cherche à se protéger, à protéger leur progéniture, mais qui essaye de trouver leur place, en fait.
Mais c'est vrai qu'elles ont toutes des grands yeux écarquillés entre la peur, la stupeur. C'est très impressionnant. Puis il y a toujours ces couleurs, c'est quand même des teintes assez 70s aussi. Hein. On est dans des verts, des orangés, des jaunes. Et tu parlais de ce portrait de Kate Millett qui est vraiment une incarnation du combat féministe. Et Maggie Nelson, dont on va parler maintenant, qui est ton dernier choix, ton troisième choix, c'est... elle, l'incarnation peut-être du féminisme d'aujourd'hui. C'est une figure de ce qu'on appelle la littérature queer, qui travaille beaucoup autour du genre, de la question du genre. Et là, toi, tu viens de traduire Bleuet, donc Bleuets dans la langue originale. Et en fait, je me rends compte que depuis quelque temps, tu traduis énormément d'autrices féministes ou d'autrices à l'œuvre féministe. Je pense évidemment à Janet Winterson, qui est cette écrivaine anglaise qui a écrit, je sais que je vais me planter en disant le titre, « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» bravo. Paru aux éditions de l'Olivier, là, qui racontait comment elle a grandi en étant lesbienne avec une mère adoptive très croyante et qui s'opposait très férocement à l'orientation de sa fille. Et puis, tu as traduit Rebecca Solnit, pour la situer très vite. En gros, c'est la mère du concept du mansplaining ou de la m'explication. Qu'est-ce qui se passe, Céline? Est-ce que c'est un choix délibéré de ta part? Est-ce qu'il y a un engagement féministe dans ton travail de traductrice?
Que se passe-t-il? C'est grave, docteur. Eh bien, oui et non, parce que c'est vrai que le travail de traduction, tu choisis pas toujours les textes. Hein. Après, ça s'est fait presque naturellement. Par exemple, Janet Winterson, il se trouve que je connaissais son travail depuis l'université et que de l'intérêt d'avoir des bonnes relations et une véritable entente avec les gens avec qui on travaille, et là, notamment avec Nathalie Sbérot à l'époque où elle était éditrice aux éditions de l'Olivier, m'a, je sais plus, écrit, téléphoné ou en parlant un jour, elle me dit mais il y a un nouveau Janet Winterson, par hasard ça ne t'intéresserait pas? Et Nathalie a le don de savoir lire en moi, donc évidemment j'ai sauté au plafond et je me suis jetée dessus. Après, j'ai pleuré des larmes de sang pendant la traduction parce que c'est pas de la tarte, hein, mais c'était vraiment extraordinaire. Entre-temps, on me parle de Maggie Nelson, je me jette dessus. Je savais que le sous-sol avait acheté, je crois, une partie rouge, mais je ne savais pas s'ils avaient acheté Bleuet. Et donc, j'ai écrit pour dire, je ne sais pas ce que tu fais avec Bleuet, mais si jamais, au cas où, par miracle, c'était possible de... Et en fait, il a été possible de... Et voilà, j'ai un peu pleuré des larmes de sang à nouveau.
Oui, parce que Maggie Nelson, donc, c'est très particulier hein, comme écriture. Donc, Bleuet, c'est un petit livre. En plus, il est magnifique. La couverture est superbe. Donc, ça vient de sortir. Hein. C'est le dernier livre de Maggie Nelson. Donc, une couverture bleue comme un ciel étoilé. Et puis après, le texte se présente sous forme de courts paragraphes numérotés. En gros, elle explique qu'elle est amoureuse d'une couleur, la couleur bleue. Et elle se demande si cette obsession qu'elle a pour la couleur bleue va pouvoir la guérir d'un autre amour, l'amour pour une personne, un homme avec qui elle a vécu, avec qui elle a eu apparemment une histoire aussi sexuelle très forte. Donc, est-ce que la couleur va pouvoir apaiser sa douleur? Est-ce que l'obsession pour le bleu va pouvoir lui faire oublier sa passion et la guérir, en gros, de son chagrin d'amour? Et tout ça, c'est plein de petits fragments. Il y a Roland Barthes qui a écrit des fragments du discours amoureux. Là, c'est des fragments d'un discours malheureux. C'est à la fois très fragile et très, très dense, hyper fort. Il y a plein d'idées. Et on part de paragraphes très référencés. On a envie de lire 1000 livres quand on lit Maggie Nelson parce qu'il y a plein de références, plein de citations. Et puis en même temps, des passages très crus où elle parle de cul, tu traduis par la baise. Donc voilà, il y a tout ce mélange. Donc j'imagine que pour une traductrice, c'est compliqué. Comment tu parlerais, toi, de Bleuet ?
J'ai retrouvé exactement tout ce que tu viens de décrire et ce que j'ai adoré. Et c'est ça aussi qui me pousse finalement, je pense, vers toutes ces femmes-là. C'est que y a vraiment des choses vraiment passionnantes qui se passent dans la littérature américaine aujourd'hui. Alors, on aime les grands écrivains des grandes plaines, hein, y a pas de souci. Mais on aime découvrir d'autres choses et des voix américaines. L'intérêt d'avoir un aussi grand territoire, c'est d'avoir une population très variée avec des gens qui pensent différemment. Et vraiment, il se passe quelque chose au niveau de la littérature, notamment écrite par des femmes. Enfin, tout ce qui est littérature un peu des marges, et c'est quand même horrible de dire que la littérature écrite par des femmes est une littérature de marge, mais fait est de constater quand même qu'elles font des choses différentes, que la littérature afro-américaine propose des choses incroyables, la littérature queer, transgenre, il y a des choses formidables. Et voilà, et tu ouvres ce livre, ça te fait penser à 1000 choses hein, tout en étant totalement unique. C'est à la fois effectivement Roland Barthes. Alors les Américains, les écrivains notamment américains ont une fascination bon pour Barthes, mais pour le discours d'un fragment d'un discours amoureux. Des fois d'ailleurs ça devient un petit peu un mème et c'est un petit peu.
On peut peut-être résumer en deux phrases. C'est compliqué. Ce que sont ces fragments de Barthes.
Les fragments, c'est tout simplement les différentes étapes en fait de l'état amoureux. Voilà, les différentes étapes de l'état amoureux, on va dire ça vraiment en les très grands traits. Hein. Mais donc il y a une véritable fascination des Américains pour ce texte. Hein. Des fois, ça donne des choses extraordinaires, et puis des fois, bon, c'est juste un peu mal appliqué. Mais voilà, et donc chez Maggie Nelson, il y a à la fois Barthes, mais en fait les fragments numérotés, c'est aussi Wittgenstein parce que Maggie a une formation philosophique assez poussée et qui m'a un peu fait peur d'ailleurs hein, parce que ce n'est pas du tout mon cas hein. Mais elle a été très généreuse en explication donc.
Oui parce que je suis désolée je t'interromps mais c'est vrai que ça peut faire peur comme ça on parle de références philosophiques de philosophes très complexes et faudrait pas faire peur parce que c'est vraiment ce texte on peut aussi le prendre comme une espèce de petit manuel de consolation. Et je pense que s'il y a des références qui échappent ou qu'on ne les comprend pas tout de suite ou qu'il y a un paragraphe qui paraît un peu obscur, ce n'est pas grave, on passe au suivant et on trouvera toujours quelque chose en fait, on pourra toujours puiser quelque chose dans ce texte.
Non, c'est un texte très réjouissant et d'ailleurs l'amie, la première qui m'en a parlé, la première chose qu'elle m'a dit, je viens de lire un truc incroyable, ça ne ressemble absolument pas à ce que j'aime normalement, c'est-à-dire que c'est à l'opposé absolu de ce que j'aime et de ce que je lis normalement. Et c'est incroyable, j'ai adoré ce texte. Et il y a effectivement, et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'humour, hein. À un moment donné, elle a toute une réflexion, parce que le problème de la couleur bleue, c'est que c'est pas une personne, en fait. C'est même pas une chose, c'est une perception. Une perception, en plus, qui, malheureusement, on est tous différents, on est tous dans notre intériorité, et personne n'a la même perception forcément des choses. Donc, c'est assez problématique. Mais du coup, elle part sur toute une réflexion sur les yeux bleus. Est-ce qu'on voit le monde plus en bleu quand on a les yeux bleus ? Elle a les yeux bleus. Hein. Du coup, moi qui ai les yeux bleus aussi, je me suis dit, mais oui, alors, est-ce que je vois plus le monde en bleu ? Et elle dit, je veux croire que oui, et entre parenthèses, elle met auto-célébration. Ce que je trouve à mourir de rire, elle a un humour extrêmement fin. Et enfin, tout est là pour aider à mieux comprendre et sans jamais simplifier, parce que ce qui est très beau, c'est exactement ce que tu expliquais, c'est-à-dire que le fonctionnement du texte ne déroule pas une pensée cartésienne avec thèse, antithèse, synthèse. Hein. C'est que ça part dans tous les sens hein, et en même temps, tout est quand même cohérent. Parce que quand j'ai eu l'occasion d'avoir le nez un tout petit peu très près du texte, hein, c'est-à-dire qu'en fait, hein, tout est tressé. Elle fonctionne par à la fois, des fois par cadavre exquis. La fin d'une proposition la fait rebondir sur la suivante pour partir sur autre chose, qui part sur autre chose, qui part sur autre chose, hein, tout en restant dans un cadre que manifestement elle a défini. Et quand on regarde un peu en détail, hein, tout, il y a différents fils qui sont tous tressés, en fait, et qui donnent un tout cohérent. Et voilà, donc ça, c'est formidable.
Et parmi les trois livres dont on a parlé, lequel tu, pour toi, lequel est le plus urgent à lire ?
Oh là là, la question est assez compliquée parce que le Octavia Butler est pas très facilement accessible. Je ne suis pas sûre qu'il soit encore disponible. En tout cas, précipitez-vous dans les bibliothèques, hein, essayez de le trouver. Hein, parce que oui, ça, enfin en tout cas, Octavia Butler dit des choses en les ayant écrites dans les années 70 aux années 90, dit des choses sur le monde d'aujourd'hui qui sont renversante d'acuité et d'intelligence. Mais voilà, il y a, je pense que Maggie est aussi importante parce qu'elle cherche à se consoler et à travers son propre chagrin d'amour, elle cherche aussi à nous consoler et à nous apprendre aussi à aller chercher ce qui va nous consoler.
Donc celle que tu appelles familièrement Maggie, c'est donc Maggie Nelson dont tu as traduit Bleuet et qui vient de paraître aux éditions du Sous-Sol.
Vous venez d'écouter Céline Leroy et les trois livres recommandés sont « Liens de sang » d'Octavia E. Butler aux éditions Dapper, le catalogue d'exposition Alice Neal, peintre de la vie moderne au fond Mercator et Bleuet de Maggie Nelson, traduit par Céline Leroy et paru aux éditions du Sous-Sol. L'entretien a été mené par Elisabeth Philippe et il a été monté par Amel Almia. Iris Wedraogo était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous, c'est la meilleure manière de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louismedia.com ou sur le compte @bookclublouis sur Instagram. À très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Media. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.